Patrick, il me semble qu'on voit pas ça souvent, des publicités montrant des armes semi-automatiques et des formes humaines en type de cible. Il me semble qu'on n'en voit pas beaucoup de publicités au Québec.
Ça, en tout cas, on voit pas ça sur les grands réseaux de télé, peut-être sur des réseaux plus spécialisés.
Ou des magazines.
Ou sur Internet, peut-être, mais il me semble, tu sais, Paul, si... Regardez. Quand tu veux faire la publicité de produits alcoolisés, tu peux annoncer à télé, mais pour plein de raisons, tu ne peux pas montrer les gens en train de boire le produit. Ça fait partie des subtilités qui sont mises en place pour pas inciter les gens, pour pas les inciter à consommer, à boire. Est-ce qu'on peut trouver que c'est de l'hypocrisie, mais si on fait ça pour l'alcool, est-ce qu'il n'y a pas une logique de ne pas permettre là, une certaine glorification, justement, dans les publicités pour les armes? Je pense que, comme disait Hélène Buzetti tantôt, avec qui tu faisais une entrevue, ben c'est une question intéressante. Ça va être un débat passionnant. Moi, ce que j'aime dans les mesures qui sont proposées, c'est qu'on met des entraves entre des gens à risque et l'accession à des armes. Et, moi, j'ai pas d'armes. Je suis pas un amateur d'armes. Je peux comprendre qu'on ait des armes pour la chasse. Je peux pas comprendre qu'on puisse acheter... Des fusils qui vont éloigner les premiers patrouilleurs qui vont arriver sur les lieux d'une scène de crime. Ça me rentre pas dans la tête. Mais l'idée, c'est que des gens à risque n'aient pas accès à des armes, d'une part, qui s'en servent à des fins tragiques, mais aussi que ces gens-là, s'ils ont un profil de gens pas responsables, ben tu veux pas que l'arme soit volée ou qu'elle se retrouve dans la nature. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, sans cibler tous ceux qui ne sont pas un problème.
Oui. Et on n'a qu'à regarder aux États-Unis où rien n'a bougé, je parle du point de vue politique, depuis la tuerie de Parkland le 14 février. Ben encore ce matin, coup de feu dans une école du Maryland, deux blessés, le tireur tué.
Voilà. Et regarde, c'est sûr qu'il y a plusieurs différences entre la culture des armes qui est protégée par un droit constitutionnel aux États-Unis et le cadre canadien, mais oublions jamais une chose. Au Canada, parce que les armes sont plus difficiles à obtenir. Aux États-Unis, tu peux rentrer dans une armurerie et littéralement, en quelques heures, avoir une arme. C'est pas le cas au Canada. C'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
Ben, je pense que ça fait une différence entre ces deux sociétés-là. Au Canada, on vit dans une société qui est beaucoup plus pacifiée. Dans un parking de Walmart, si tu chiales avec quelqu'un, tu as bien plus de chances qu'il sorte un gun aux États-Unis qu'au Canada. Puis ça, à la fin, je pense que...
Je pense que c'est une excellente idée, effectivement, et on se réjouit de vivre au Nord.
Voilà.
Les autorités européennes et britanniques, c'est une très grosse affaire, ça, Patrick,
oui.
Chargées de la protection des données, veulent entendre, ils l'ont convoqué, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, parce que la société Cambridge Analytica est accusée d'avoir illégalement acquis les données d'utilisateurs de Facebook. Et on parle pas de un ou deux, on parle de 50 millions d'utilisateurs de Facebook afin de s'en servir pour la campagne présidentielle de Donald Trump.
50 millions de comptes auraient pu être épiés pour qu'on puisse cibler là, des messages personnalisés afin d'influencer l'issue du vote. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ces gens-là qui ont été ciblés auraient de toute façon voté pour Trump? On le sait pas, ça va être difficile de le savoir. Mais ce qui est fantastique avec cette histoire-là, c'est que ça force une discussion sur les données numériques. Ça force une discussion sur comment nos données sont utilisées comme ça quand on les confie au Facebook de ce monde. Et l'idée, c'est pas de fermer Facebook. L'idée, c'est d'avoir une conversation et de pousser les États à faire ce que les compagnies ne veulent pas faire. Parce que présentement, en matière de données numériques, Paul, c'est le Far West. Et tu mentionnais que Zuckerberg, le fondateur et président de Facebook, est convoqué, là, je pense, au Parlement britannique et aussi par des autorités européennes. Mais en Europe, la discussion là-dessus sur la protection des données, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, quelle est la prérogative des citoyens, elle est en cours depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut voir au Canada ou aux États-Unis. Ce printemps, il y a un règlement général de protection des données qui doit entrer en vigueur dans l'Union européenne, qui vise à rétablir une sorte de rapport de force entre les utilisateurs et tous ceux qui perçoivent des données comme ça, des données invisibles, mais ô combien pesantes financièrement. Donc, quand j'entendais tantôt dans le bulletin de nouvelles Justin Trudeau dire « Oui, on prend ça au sérieux et on en parle avec nos... moi, j'en parle avec mes collègues du G7. » Quand tu vois ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, ce que tu te dis, c'est que je pense qu'on ne fait qu'en parler présentement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui agit. Et là, soudainement, le public comprend un enjeu qui est parfois assez opaque, parce que c'est assez facile à comprendre, ce coup-là.
Mais on s'en est parlé, toi et moi, il y a quelques semaines,
oui,
de cet incroyable, j'appellerais ça une nudité numérique. Oui. C'est comme si on fait quelque chose avec Internet. Exemple, on fait un achat en ligne. Et c'est toi, je pense, avec toi qu'on en discutait, Patrick.
Oui.
T'as eu le malheur de t'intéresser à une paire de bas. Tu vas être poursuivi par des annonces de paires de bas partout, oui, où tu vas aller et que tu vas te brancher sur Internet. Et moi, je ne sais pas si c'est le même feeling, mais c'est comme si on était nus devant la sphère. Ils sont capables de voir ce que tu penses, ce que tu aimes, ce que tu as, oui, recherché dans ta journée. Et on n'en est qu'au début. Qu'est-ce que ça va donner dans quelques années?
Hey, Facebook, là, c'est devenu grand public il y a quoi? Il y a 10 ans environ. Ajoute un autre 10 ans d'intelligence, de maîtrise de ces technologies-là. C'est vraiment épeurant. Et c'est pour ça qu'il faut que les États interviennent. Et au Canada, aux États-Unis, on le voit, c'est une sorte de laisser-faire quand on compare avec les ambitions en Europe. Moi, c'est quoi? Je mets de l'espoir du côté des tribunaux. À un moment donné, il y a des usagers qui vont faire des recours, et c'est les tribunaux, je pense, comme dans d'autres cas de vie privée, qui vont mettre leurs pieds à terre, qui vont forcer l'État à agir. Écoute, aujourd'hui, là, si on parle de vie privée, avant, les journalistes pouvaient prendre les photographes là, de médias pouvaient prendre une photo dans un parc et juste la diffuser comme ça, puis ta photo paraissait dans le Journal de Montréal, dans la presse. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu un jugement de la Cour suprême sur le droit à la vie privée, le droit à l'image, bien, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Il faut vraiment que ce soit un événement public. Tu peux pas juste aller illustrer un article en prenant une photo en public comme ça au hasard. Bien, pense à ça et pense à ce que les Facebook de ce monde peuvent faire avec nos données,
ben,
sans nous le demander.
Ben, exact.
Il y a vraiment un canyon entre l'ancien monde et le nouveau.
Merci beaucoup, Patrick. Au revoir.